Ce soir comme hier, on va faire le plein d'énergie et cette fois grâce à l'assistance des machines pleines d'âme, comme vous allez l'entendre.
Yes.
Genuine Hesitation, authentique hésitation, un tout nouveau titre signé par un musicien américain qui s'appelle Matthew E. White et qui est basé depuis longtemps dans la ville historique de Richmond en Virginie. C'est un peu moins de 2 heures en voiture au sud de Washington, voilà, pour vous situer. Cet homme serait sans doute extrêmement surpris si je lui disais que sa chanson a quelque chose qui me rappelle le tout premier Roxy Music, et oui, celui de 1972, avec un Brian Eno jeune qui posait sur les pochettes, maquillé comme une voiture volée avec des plumes d'autruche fixées aux épaulettes d'une veste en lamé. Et d'ailleurs, cette chanson, elle fait aussi penser au premier et génial album solo de Brian Eno, Here Come the Warm Jets, un chef-d'œuvre donc paru en 73, donc il y a près d'un demi-siècle, et dans lequel on ne cesse d'ailleurs de puiser et repuiser. Parce que bon, alors tout ça pour vous dire, Matthew E. White, il est né au début des années 80, et ça, tout ça, évidemment, c'est pour lui, c'est de la légende. Alors, je vais être Matthew E. White, c'est un nom qui me disait pas grand-chose, et je suis largement passé à côté de sa production, et je regrette beaucoup, parce que ce musicien, d'après ce que j'ai appris, a suivi un parcours singulier qui le rend très attachant. Enfin, il y a comment dire, une qualité d'âme particulière dans sa musique. Oui, pourquoi un parcours singulier ? Eh bien, parce que il n'a pas eu une enfance banale. Déjà, ses parents étaient un couple de missionnaires chrétiens qui sont partis donc de Richmond en Virginie évangéliser des populations en Asie du Sud-Est. C'est le petit Matthew a passé de longues années dans la région de Manille, hein, aux Philippines, et puis il est resté aussi quelques temps auprès de ses parents au Japon. Et quand il est revenu vivre aux États-Unis, donc dans le nord de la côte Est, il s'est senti un peu déphasé, comme souvent les enfants d'expatriés. Mais enfin, bon, voilà, Richmond, il s'est adapté. Et ce garçon, qui ne connaissait pratiquement rien à la musique américaine, la musique de son pays, à part des cassettes de Chuck Berry et des Beach Boys qu'avaient ses parents, a brusquement pris dans les dents des choses comme, voilà, la fusion metal rap de Limp Bizkit à la fin des années 90. Et il s'est greffé, comme collégien et lycéen, tant bien que mal, au milieu punk lycéen local. On a du mal d'ailleurs à imaginer à quoi pouvait ressembler, entre l'âge de 15 et 20 ans, donc à la fin des années 90, ce garçon qui aujourd'hui a l'allure d'un hippie illuminé, à la longue chevelure et à la barbe christique, sans oublier les grosses lunettes à l'épaisse monture, et sans doute, enfin on ne le voit pas sur les photos, mais on peut le conjecturer, les sandales. Et oui, Matthew E. White a étudié la musique dans une université publique de Richmond, et dès qu'il en est sorti, eh bien il a pas fait du tout comme les autres, il a cherché à réaliser un projet extrêmement ambitieux, équipé un vaste grenier en studio d'enregistrement. Alors non pas en home studio comme ce qui se fait aujourd'hui, mais en vrai studio à l'ancienne pour y accueillir une équipe de musiciens attitrés, de musiciens maison. C'est ainsi qu'il a embauché les étudiants d'une école de jazz avoisinante pour en faire un groupe d'accompagnateurs maison. C'est quelque chose qu'il se pratiquait, qu'on voyait dans les années 60 et 70. Je pense aux studios Stax à Memphis, ou alors à ceux de Muscle Shoals dans l'Alabama, là où on enregistrait voilà les chefs-d'œuvre de Aretha Franklin. Mais évidemment, dans les années 2010, c'était plus du tout en vogue parce que tout est devenu évidemment échantillonné et numérisé. Alors Matthew E. White s'est acharné et il a mis 3 ans à bricoler, voilà le mot est faible, hein, enfin donc à construire son studio, et il a réalisé et peaufiné le premier album de sa copine d'enfance Natalie Price, un album qui a été publié en 2015, qui a été pas mal remarqué. Et parallèlement, 2 ans avant, en 2013, eh bien, il a diffusé un album de chansons de son cru qui s'appelle Big Inner, grand intérieur, évidemment c'est un jeu de mots avec Beginner comme débutant. Et pour un débutant, alors j'ai jeté une oreille, hein, c'était assez ambitieux, des orchestrations de cordes raffinées, des cuivres feutrés. Ce premier album avait toutes les caractéristiques d'un album de chansons soul, avec en plus une sophistication propre au jazz, où l'on sentait aussi d'ailleurs les effluves d'une certaine musique brésilienne. Ce qui explique que cet album de Matthew E. White soit resté pour beaucoup d'amateurs un objet de fascination. Et d'ailleurs, comme il l'avait déclaré drôlement au journal britannique The Guardian en 2013, si j'étais noir, on dirait que c'est un album soul. Mais malheureusement, je suis un gars blanc qui chante pas très très bien, donc on ne sait pas trop comment décrire ma musique. D'où d'ailleurs le charme, c'est une qualité d'ailleurs toujours un peu paradoxale au fond, qui vient donc de cette maladresse vocale. Matthew E. White a beaucoup travaillé ensuite auprès d'autres musiciens, notamment la chanteuse Bedouin, hein, je vous en ai parlé il y a la semaine dernière, une chanteuse originaire de la ville d'Alep en Syrie, qui est venue travailler à ses côtés à Richmond dans son studio, qu'il a baptisé d'ailleurs Space Bomb. Et puis il a aussi aussi enregistré, ça c'est une curiosité, mais c'est très réussi. Voilà, j'ai entendu ça vite fait. Hein. Comme en tant qu'interprète, un album en duo avec une jeune chanteuse anglaise, Flo Morrissey, qui s'appelle Gentlewoman Ruby Man. Un album qui est apparu en 2017, à côté duquel je suis complètement passé, je l'avoue. Un curieux recueil de reprises où l'on peut notamment découvrir la version que Matthew E. White et Flo Morrissey ont interprété d'une chanson obscure de Nino Ferrer, et oui, qui s'appelle Looking For You, et qui était en anglais à l'origine. Il se trouve que Nino Ferrer avait enregistré cette chanson en 1974 pour un album enregistré en duo avec la chanteuse noire américaine Radia, Radia Fry. Un album qui d'ailleurs à l'époque avait fait un gros beat, ça avait été un traumatisme pour Nino Ferrer, même si l'on y a découvert une de ses chansons les plus connues qui s'appelle Le Sud, et d'ailleurs qui était à l'origine une chanson qu'il avait écrite et interprétée en anglais, et c'est par elle que commence l'album, ça s'appelle tout simplement South. Voilà. Bref, alors je reviens à notre époque, j'ai pas pu écouter l'intégralité donc du nouvel album de Matthew E. White qui s'appelle K-Bay, mais il semblerait qu'il ait découvert Kraftwerk et aussi certains albums électropop signés par Iggy Pop, et ça l'a entraîné vers une nouvelle approche musicale qui ne retire rien au charme de sa voix et de sa musique. Voilà, ça m'a en tout cas inspiré le programme musical de ce soir, et tout de suite vous allez entendre un tout nouveau titre signé d'un musicien qui s'appelle Baba Ali. Et oui, je vous avais parlé l'année dernière de ce musicien originaire de Brooklyn qui dit avoir beaucoup écouté la musique du Nigérian Fela dans son enfance, c'est pas fréquent, tout comme celle de Prince aussi. Et voici quelques années, il s'est fixé à Londres après avoir obtenu une bourse pour étudier les beaux-arts à la célèbre université de Goldsmiths. Et c'est un excellent musicien américain, je vous en ai souvent parlé dans cette émission, Danger Mouse, qui a découvert Baba Ali, dont il diffuse la musique via son label 30th Century Records. Et ce titre signé Baba Ali s'appelle Nuclear Family, et c'est dans Very Good Trip sur France Inter.
Fiddle, we sold our strings. to assign someone to worry your mother.
Excuse me.
What?
Excuse me.
What?
Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a chaise long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume.
De chaise longue. Voilà, toute la journée sur la chaise longue. Dommage que ça rime pas de la même façon en français. Une petite comptine dont Stéphane Ronxa m'apprend qu'elle est sur la playlist de France Inter. Voilà, je l'ignorais, mais je suis content. Signée par un duo de deux jeunes filles originaires de l'île de Wight, Ryan et Hester, qui se font appeler Wet Leg, hein, comme jambes humides. Évidemment, il y a une connotation un peu sexuelle, hein, dans ce nom. Et dans cette voix juvénile, à l'intonation ennuyée, je sais pas laquelle des deux d'ailleurs a cette voix, je retrouve quelque chose de l'intonation d'une chanteuse dont j'ai oublié le nom, et qui, à 40 ans, avait repris un classique de la période Motown, qui avait été popularisé par les Beatles à leur début, Money, That's What I Want. Et le duo dans lequel chantait cette jeune femme s'appelait les Flying Lizards. Et c'est un musicien de l'avant-garde de la période, David Cunningham, un explorateur de l'électronique, qui avait conçu ce titre extrêmement provocateur. C'était en 78. Et je me rappelle que la fille annonnait d'une voix ennuyée, oui, ce qu'il y a de mieux dans la vie ne coûte rien, mais moi je laisse ça aux oiseaux et aux abeilles, donne-moi de l'argent, c'est ça que je veux. Évidemment, c'était un détournement comme ça, un peu nihiliste de cette comptine qui était un peu cynique d'ailleurs, puisqu'on dit que les années 60 c'est le règne de l'innocence et de la naïveté, c'est sans doute à nuancer. Voilà, je vous ferai écouter ça un jour, ce sera pour une autre fois. Tout de suite, je vous propose de retrouver un excellent groupe australien qui s'appelle Pond. Je vous avais parlé en juin dernier de ce groupe qui a vécu à la faveur de la période difficile qu'on a tous traversée, une sorte de renaissance inattendue. Il se trouve que Nick Holbrook, le chanteur, guitariste et principal compositeur de Pond, et sa bande ont vécu une expérience assez particulière de la pandémie, puisque sur la côte ouest de l'Australie, dont ils sont originaires de la ville de Perth, le coronavirus n'a pas été très présent et il n'y a pas eu de confinement là-bas, contrairement à Sydney et aux autres grandes villes de l'autre côté de la côte est. C'est ainsi que Pond a pu donner des concerts, même pas mal de concerts. Ils ont peut-être joué 10 fois en un an devant le même public. Une expérience qui, comme je vous le disais en juin dernier, a encouragé les membres de Pond à travailler différemment, à profiter plus que jamais du fait que, contrairement à leurs compatriotes de la côte opposée, si j'ose dire, ils avaient la chance, j'allais dire le privilège, car c'en est un, de se réunir, de travailler ensemble, de profiter à plein de leur vie en communauté. Et c'est ce que Nick Holbrook a déclaré tout récemment au site internet anglais NME. En fait, on crée ensemble des choses dans l'instant. C'est à l'opposé de ce qu'on réalise laborieusement sur des machines, chacun chez soi. Évidemment, ça ne dégage pas du tout la même chose. Dans ce nouvel album, signé Pond, une énergie nouvelle est née. Voici la chanson-titre de ce nouvel album, qui s'appelle Human Touch.
I'm not afraid to die. France Inter.
We'll be right back.
Rhythm is our business, un nouveau titre signé par un duo d'électropop londonien qui s'appelle Snapped Ankles. Il y a quelque chose là-dedans qui me rappelle fortement dans l'esprit les débuts du groupe XTC, alors il y a plus de 40 ans, au temps où celui-ci jouait une espèce de funk robotique où perlait le malaise. Voilà, alors en tout cas, enfin voilà, je sais pas, il y a peut-être des influences subliminales. En tout cas, ce duo s'appelle donc Snapped Ankles, ça veut dire cheville brisée. Il vient, je vous le disais, de Londres, plus précisément de l'Est londonien, de ces quartiers où, d'ailleurs, depuis pas mal d'années maintenant, à une vitesse croissante, on détruit d'anciennes bâtisses pour y construire à la place, de nouveaux ensembles immobiliers destinés à loger, voilà, ceux qu'on peut désigner comme les gagnants du nouveau monde. Alors, par ironie, évidemment, Snapped Ankles avait intitulé son album sorti en 2019 Stunning Luxury, on pourrait dire luxe époustouflant. Vous savez, c'est un peu le langage des brochures de propagande des promoteurs immobiliers. Et entre musique, performance et intervention provocatrice, eh bien, les membres de Snapped Ankles publient un nouvel album qui s'appelle Forest of Your Problems. Juste avant, un nouveau titre signé par un jeune groupe qui lui vient de Manchester, qui s'appelle W.H. Long. On avait pas mal remarqué il y a 2 ans son premier album intitulé Incidental Music. Voilà, c'était, je vous avais diffusé ça, si mes souvenirs sont bons, mais ils le sont. Le fruit assez intéressant d'une expérience que les membres du groupe avaient vécu ensemble. Ils avaient partagé pendant 2 ans la même, je vous parle de ça, c'était avant le confinement et tout ça, hein, pendant 2 ans, la même colocation assez spacieuse dans une banlieue de Manchester où ils avaient amassé du matériel, notamment des synthétiseurs modulaires, et ils avaient passé un temps inouï à trier parmi tous les sons qu'ils trouvaient, et voilà, ça a été vraiment un peu leur raison de vivre. Alors entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pandémie, confinement, et tout ce qui s'ensuit. Alors bon, l'expérience qui consiste à rester enfermé pendant des semaines et des semaines sans sortir ou presque a, on les comprend, quelque peu perdu de son charme et de son attrait pour les membres de W.H. Long, et ils ont rêvé comme nous tous, de sorties, de discothèques, de danse, de rythme d'électro-pop qui s'empare de votre corps, et cette aspiration se traduit dans un nouvel album qui sort ces jours-ci et qu'ils appellent Vanities. Alors voici quelque chose d'inattendu, de très intéressant, mais pas seulement, très séduisant aussi. C'est vrai, quand on entend intéressant, on se dit, oh là, je vais peut-être un peu m'ennuyer, voilà, pour pas dire autre chose, mais pas du tout. Le jeune trentenaire bruxellois, donc il est belge bien sûr, Lucien Frépon, alias Robbing Millions, a déjà une impressionnante expérience de musicien. Alors, un groupe de rock gamin, bon, ça c'est banal, l'apprentissage de la guitare blues vers l'âge de 16 ans, bon, c'est un petit peu moins, puis une initiation au jazz qui change sa vie, c'est moins courant. Très jeune, Lucien Frépon est parti pour New York afin d'y prendre des cours dans des écoles de haut niveau, des cours de guitare, mais enfin, comme il le dit, quand on n'a pas de bourse, évidemment, c'est pas facile. Et donc, c'est comme ça qu'il a fini par trouver sa voie. Il est revenu chez lui, il a créé une musique qui réunit avec beaucoup de fraîcheur des éléments variés qu'on n'est pas habitué à voir tenir debout ensemble. Voilà, des accords et rythmes de guitare jazz, des voix et instruments déformés par des procédés électroniques, ça c'est fréquent, mais les harmonies et dissonances auxquelles il recourt le sont moins. Une grande variété de styles, marquée par une ambiance étrangement cool, qui traduit l'influence des musiciens qu'il a côtoyés à Los Angeles, notamment Ariel Pink, dont il est devenu copain. Et chez Robbing Millions, il y a aussi un élégant humour belge, pince sans rire, dans les paroles de cette chanson notamment, qui s'appelle Caméra, et c'est ce soir sur France Inter dans Very Good Trip.
Yeah. liens sans les autres, voilà, la nécessité de la vie en société. C'est-à-dire que quelquefois, on peut exister la société dans la façon de l'organiser, dans la notion de la société.
Trip sur France Inter.
Looking for a sign.
Des accents de musique venus d'Asie, d'Afrique, c'est difficile, tout ça est un peu brouillé, enfin on peut percevoir en tout cas dans le rythme, l'ambiance, une certaine moiteur un peu tropicale et presque des parfums voilà, qui se dégagent de ce titre qui s'appelle Face One Million, un titre qui est signé par un groupe londonien du nom de Vanishing Twin et qui a été formé à Londres donc par deux femmes, la chanteuse Kathy Lucas et la batteuse Valentina Magaletti. Alors on y compte aussi, outre un bassiste japonais, il y a le responsable aussi d'un centre d'archives sonores à Londres et qui est responsable aussi au sein du groupe de sons étranges, c'est eux qui le disent, et on le surnomme Phil MFU, Phil Man from Uranus, Phil l'homme venu d'Uranus. Sans oublier un photographe, graphiste et cinéaste du nom de Elliot Arndt qui joue avec eux, donc avec Vanishing Twin, de la flûte et des percussions. Alors c'est assez étrange parce que quand on regarde une photo de ces cinq-là, c'est curieux, on dirait pratiquement un cliché pris il y a un siècle lors d'un événement dadaïste. En tout cas, dans leur musique, une sorte de funk jazzy léger qui semble flotter voilà doucement en haut dans le firmament, il y a une invitation au voyage et au rêve, et je rappelle le nom du groupe Vanishing Twin. Voilà, alors il nous reste un peu de temps et je voudrais profiter de ça pour saluer la mémoire histoire d'un musicien qui m'a beaucoup marqué et qui nous a quittés il y a longtemps, il y a un an et demi déjà, à l'âge de 70 ans. C'était Dave Greenfield, c'était le clavier d'un groupe bien connu, les Stranglers, ceux qu'on appelait les Doors du punk, un groupe londonien. Il avait eu le temps, avant son hospitalisation, de participer à ce qui serait pour lui, donc Dave Greenfield, son ultime album avec les Stranglers, c'est un album qui s'appelle Dark Matters et qui sort maintenant. Et la marque de Greenfield, organiste, est très sensible qui, sur cette chanson que vous allez entendre, qui se hisse au niveau de ce que les Stranglers ont fait de mieux en près de 45 ans de carrière. Ça donne le vertige. Seul le bassiste, compositeur et chanteur Jean-Jacques Burnell demeure désormais de la formation d'origine, puisque Hugh Cornwell, le guitariste et chanteur principal de la grande époque, est parti il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans déjà, en 1990. Et le batteur Jet Black s'est retiré il y a 3 ans, à l'âge quand même assez avancé, de 79 ans. Mais une grande part du talent et de l'esprit des Stranglers, à l'origine d'ailleurs de certains de leurs meilleurs titres, comme l'excellent Golden Brown, c'était Dave Greenfield. Cette très belle chanson, signée par les Stranglers, s'appelle « If something's gonna kill me, it might as well be love ». Si quelque chose doit me tuer, ou va me tuer, autant que ce soit l'amour, ben c'est une épitaphe qui personnellement me convient parfaitement. To light the path before us so we can see.
Might as well be love.